Voilà l'émission Et si on en parlait. Cette semaine, l'émission Et si on en parlait, elle a décidé d'aller prendre l'air un petit peu dans le quartier de Belleroche parce qu'il y a un événement. C'est pas une brocante, non, c'est quelque chose de particulier. Grafitera, ça s'appelle ? Gratifera ?
Une gratiféria.
Une gratiféria, voilà. C'est quelque chose dans gratis, il y a comme le début de gratuit. Et c'est un moment d'échange. Alors, je reçois à mon micro Élodie Périchon de l'association, de la structure L'Effet Papillon. On va très rapidement rappeler ce qu'est cette structure.
Alors l'Effet Papillon, c'est une association, une boutique gratuite qui est située à Belleville en Beaujolais.
Et alors ici passe quoi ?
Alors l'Effet Papillon, donc c'est une boutique gratuite. Les gens peuvent apporter et récupérer ou récupérer. C'est pas forcément un système de troc, des dons, des vêtements. Nous, on se spécialise dans tout ce qui est textile, vaisselle, livres. Et voilà, aujourd'hui, cette gratiféria verdée. Foire de la gratuité Verdé parce qu'elle correspond au printemps et qu'elle a une portée écologique et sociale forcément un petit peu. Donc aujourd'hui la gratiféria Verdé, c'est une forme de boutique gratuite en extérieur sans mur, mais c'est le même concept.
Alors le concept qui mène toutes vos actions, c'est la gratuité. Alors la gratuité, il y en a qui la critiquent en disant tout travail mérite salaire, tout échange mérite paiement. Pourquoi cette volonté de mettre en avant la gratuité ?
Parce que la gratuité, c'est le meilleur outil qui existe pour favoriser le lien social. Et la gratuité, elle ouvre ses portes aux établissements publics, aux établissements privés, aux associations, que ce soit pour des associations publiques animaliers comme les SPA qui peuvent récupérer des couvertures. Là, il peut y avoir des associations qui vont venir récupérer des verres pour leur association aussi. La gratuité, elle ouvre ses portes à tout le monde et elle ne pratique pas de ségrégation. Et ça, c'est important.
Et puis, quand il y a cet échange, c'est pas un achat, quand il y a cet échange, forcément, le billet de banque, il n'est pas entre les deux. On ne discute pas du prix et ça peut permettre d'aborder d'autres sujets.
Complètement. La gratuité, c'est intergénérationnel, c'est interculturel aussi. On ne parle pas de prix, on parle de taille. On n'a même pas obligé de parler la même langue. Il suffit de regarder l'étiquette. Donc, ça ouvre ses portes à l'humain.
À l'humain, alors l'ouverture des portes à l'humain, c'est aussi dans les activités autres que l'échange qui sont autour de cette boutique, des activités que vous menez un peu tous azimuts, on va dire, parce que c'est vrai que les Fins Papillons, c'est aussi des rencontres entre associations pour des projets communs.
Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant cette gratiféria, on a convié plusieurs partenaires parce que on est une association écologie sociale, citoyenne aussi, parce que ça part d'une intelligence collective. Sans cette intelligence collective, ce ne serait pas possible, mais aussi écologique. Donc ça a tout à fait du sens d'organiser à côté de la gratiféria un petit salon d'associations locales avec des acteurs locaux et pour que les habitants en fait, du quartier de Belleroche fassent connaissance avec toutes ces associations qui sont autour d'elles.
Ces associations qui sont beaucoup tournées vers le développement durable, la proximité, j'ai vu des AMAP, j'ai vu le SEL, on voit bien la tendance des associations participantes. Mais c'est aussi, dans les actions que vous menez aussi, c'est aussi appeler la population à s'exprimer. Je pense par exemple aux journées pour l'environnement.
Oui, bien sûr, il s'agit d'amener la population à être participative. Notre association, elle est basée sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une intelligence collective et surtout une grande participation. Les habitants du coin peuvent venir s'investir et prendre leur part de citoyenneté. Et là, on leur ouvre les portes.
Alors, la citoyenneté, apparemment, on a voulu nous faire croire qu'elle se mettait en place ou qu'elle pouvait s'exprimer dans des débats bien cadrés, bien formés. On voit notre président de la République qui se déplace un peu partout et qui fait des cours magistraux, presque. Qu'est-ce que vous en pensez de cette forme, soi-disant, de citoyenneté de terrain ?
Ça a pas l'air. Je crois que la citoyenneté, elle doit émaner des citoyens et pas du gouvernement. Sinon, sur le fond, on parle plus de citoyenneté, on parle de politique. Mais la politique, c'est pas que le gouvernement. La politique, c'est les citoyens qui se rassemblent, qui créent du mouvement dans leur ville, qui font des initiatives. La politique de la ville, de la politique de terrain, c'est ça. Ça doit émaner du citoyen.
La politique de la ville est la politique de la vie.
Et la politique de la vie, exactement.
Merci bien, Élodie. Je vous laisse continuer. Moi, je vais continuer à faire le tour de cette grande dans ce grand moment d'échange en fait sur l'allée des marronniers à Belleroche.
À très bientôt, au
merci.
Plaisir et merci.
Voilà, donc je continue mon petit tour de ce moment d'échange à Belleroche avec la Gratiferia Verde et je suis devant le stand qui est tenu par Nawel.
Par Nawel et Jean-Christophe et Cécile aussi de l'association Bantou Debout, l'association de parents d'élèves de l'école Jean Bantou.
Alors, on est juste à côté de cette école Jean Bantou. Qu'est-ce qu'elle vient faire là dans cette allée des marronniers, l'école Jean Bantou? Elle vient proposer quoi?
Eh bien, faire connaître l'association, rencontrer des parents, parler de ce que nous faisons en tant qu'association, essayer aussi de participer à l'événement. C'est une première pour nous aussi. Donc, voilà, être dans la vie du quartier et ce qui se passe.
Alors, association de parents d'élèves, quelles sont ses activités?
Alors, comme toute association de parents d'élèves, nous défendons l'intérêt des enfants à l'école. Nous défendons l'intérêt de l'école devant les institutions, devant les représentants locaux aussi. Nous sommes une association de parents d'élèves, donc on est surtout centré sur l'intérêt de l'enfant. Nous avons aussi l'objectif aussi de travailler sur la fête d'école. Donc, ça fait partie de nos futurs projets.
Alors en ce moment, on est en plein bouleversement dans le milieu scolaire. Hein. Il y a des nouvelles lois qui viennent de sortir. En tant que parent d'élèves, vous êtes forcément concerné. D'abord parce que vous avez des enfants qui sont dans cette école et qui vont devoir, entre guillemets, subir ou suivre cette nouvelle éducation. Vous en pensez quoi?
Alors comme tout parent, je suis inquiète, intéressée aussi, curieuse de savoir ce qui se passe. Le changement, de toute façon, quand il arrive au départ, ça pose toujours problème parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend, forcément. Il faut le temps aux choses pour voir ce que ça donne réellement sur le terrain. Mais certainement qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, par principe. Il y a des choses pour lesquelles je pourrais être d'accord et d'autres qui me dérangent fondamentalement.
Alors, on pourrait avoir un exemple de ce que vous seriez éventuellement d'accord?
Ce que je serais d'accord, ce serait peut-être... Enfin, bon, je n'ai pas une connaissance tout à fait approfondie des changements, on va dire, institutionnels. Mais je suis d'accord à peu près... je ne dirais pas que je suis tout à fait d'accord, mais je suis un petit peu mitigée sur cette histoire de l'âge obligatoire. C'est d'accord. L'aspect obligatoire qui me pose problème. En tant que parent, je suis d'accord pour que les enfants, surtout dans le REP+, aillent à l'école plus tôt, c'est sûr. Ça ne pourrait être qu'avantageux pour eux dans l'apprentissage, on va dire, de la langue. Ça, c'est un aspect qui, pour moi, est positif. Mais ce qui me dérange, c'est l'obligation, parce que ça ne laisse plus le choix aux parents qui veulent faire autrement. Et puis aussi, ça me dérange au niveau du rythme de l'enfant, parce que je ne pense pas que l'obligation, justement, de la scolarité à cet âge-là soit adaptée au rythme de l'enfant.
Au rythme de vie.
Tout à voilà. Fait, le rythme biologique de l'enfant aussi. Hein. L'enfant qui un jour est fatigué, n'a pas envie tout simplement, ou a envie d'aller jouer parce qu'on apprend très bien en jouant, il va devoir justifier du fait de ne pas être allé à l'école. Et ça me pose énormément de problèmes.
Et donc, à contrario, ce avec quoi vous êtes complètement opposé?
Alors, les directeurs, pas de directeur à l'école, moi je trouve ça vraiment... parce que déjà, avec un directeur qui a beaucoup de tâches, un surplus de tâches, c'est déjà quelque chose qui est difficile à gérer.
Oui, toutes les tâches administratives.
Tout à fait. Hein, donc c'est vraiment... je trouve que c'est assez lourd quand même à gérer. On le voit au quotidien. Hein, nous avons un directeur qui est très engagé, qui est très dans la vie de l'école et de l'enfant. Et je le salue pour ça d'ailleurs. Mais je trouve que ne plus avoir un direct, la nouvelle organisation, moi je trouve que ça laisse à désirer quand même. Voilà. Donc on se pose des questions à ce niveau-là.
Se poser des questions, c'est bien. D'être présent dans cet échange dans l'allée des Platanes à Belleroche, c'est bien aussi. C'est peut-être aussi l'occasion avec les parents qui sont peut-être pas les parents de vos élèves, mais d'échanger.
Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que de toute façon, ce genre de manifestation, d'événement, c'est justement une ouverture qui permet la rencontre de l'autre et qui permet la découverte. Nous découvrons d'autres associations, d'autres activités. Nous allons vers les gens et les gens viennent vers nous. Et c'est ça l'ouverture réelle qui permet le changement, qui permet d'aller vers d'autres horizons.
Je vous remercie.
C'est moi. Bonne journée.
100.9 Calade.
Voilà, toujours, ma foi, en visitant tous les différents stands de ce moment que nous passons à Belleroche, ce moment d'échange, je rencontre Clara.
C'est ça. Bonjour.
Bonjour Clara. Alors Clara, racontez-moi votre rencontre avec l'effet papillon.
Alors moi j'y suis allée pour d'abord parce que j'avais un enfant et je suis seule. Donc du coup pour l'habiller et puis après ça a été du bénévolat par-ci, par-là, replier le linge, aider Elodie comme elle pouvait. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Donc en fait vous étiez bénéficiaire parce que bon, les conditions de vie... Les conditions de vie sont ce qu'elles sont, mais ouais. Du coup, vous êtes senti face à ces gens qui se mobilisent, qui sont bénévoles. Vous avez eu envie de participer.
Oui, c'est ça, parce que de toute façon, quand on voit que nos enfants, on arrive à les habiller avec 5 articles toutes les 15 jours, donc ça fait déjà ça. Et puis moi, mon garçon qui change de taille, c'est déjà ça aussi. Donc aussi, si on nous aide, pourquoi on ne peut pas rendre l'appareil?
C'est un acte citoyen, en fait, que vous faites.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Eh ben, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde à votre stand et il y a une imprimante qui plaît, là, apparemment.
En plus de ça, oui, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, Clara. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, donc, je poursuis mon chemin dans l'allée des marronniers pour cette graffiteria verde qui se tient aujourd'hui. Et ma foi, je suis au stand du Conseil des citoyens de Belleroche, qui connaît bien cette allée parce qu'il y a des activités de temps en temps. Nous en reparlerons. Alors, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous pouvez me donner votre nom?
Oui, Madame Quignou, je suis praticien dans le quartier.
Et entre autres, vous êtes au Comité des citoyens.
Tout à fait, je suis membre du Conseil citoyen depuis 2 ans. Nous essayons de monter des projets pour améliorer la vie dans le quartier.
Alors améliorer la vie dans le quartier, ça passait aussi par un marché que vous avez mis en place. On peut en parler ?
Tout à fait. Effectivement, depuis l'année dernière, nous avons mis en place un marché sur l'allée des Marronniers, en face de l'école Jean Bontou. Et nous avons enfin obtenu, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent, un branchement électrique et une arrivée d'eau sur ce site. Et donc nous recrutons de nouveau des commerçants pour ce marché. Voilà, donc toute personne intéressée sera bienvenue et on leur demande de contacter le conseil citoyen du quartier.
Voilà, alors donc, ce quartier de Belleroche, en face de nous, on a une grande tour qui bientôt ne sera plus là, qui va se faire grignoter par les pelleteuses. Quartier de Belleroche qui est donc en pleine rénovation, vous êtes certainement partie prenante de ce projet?
Effectivement, on est venu nous informer du projet et nous demander un petit peu des suggestions quant à cette rénovation. Alors il faut savoir que cette rénovation va être très très étalée dans le temps. Et effectivement, il va y avoir la disparition de la grande barre dans un premier lieu où il n'y aura plus du tout d'habitants a priori d'ici juin 2019. Et puis vont s'étaler d'autres constructions et rénovations sur bien 10 ans, voire 15.
Quel est le sentiment de la population que vous pouvez récolter quand vous discutez de ce changement? Est-ce qu'il y a un peu d'amertume? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir?
Il y a surtout des inquiétudes. Il y a eu beaucoup de questions sur la démolition de la barre. Et puis sur le devenir des habitants qu'on allait déloger. Sur les structures qui allaient disparaître, est-ce que l'école allait disparaître ou pas, est-ce que le stade allait être déplacé, donc voilà, plutôt des inquiétudes que de l'enthousiasme.
Voilà, des inquiétudes, mais est-ce qu'à ces questions que la population se posait, vous avez obtenu des réponses maintenant que le projet sort un petit peu des cahiers de dessin?
Alors oui, les réponses que nous avons eues sont qu'il n'y aura pas une restructuration complète du quartier et que, en particulier le stade, ça faisait partie des préoccupations des habitants, le stade, l'école va être rénovée, mais le stade va rester en place. La grande barre va disparaître et vont être construits des logements de type pavillonnaire, voilà, c'en est fini des bars, des grandes bars. Les immeubles de la rue du commandant Lherminier à côté de nous ne vont en grande partie pas disparaître comme c'était prévu au début, puisque le budget finalement a été réduit par rapport aux prétentions initiales.
Alors, est-ce que vous continuez malgré tout à discuter avec ceux qui ont la maîtrise d'œuvre de ce projet pour continuer à apporter les questionnements de la population ?
Effectivement, nous avons de temps à autre dans l'année des réunions avec l'agglo et ses représentants pour avoir des précisions sur le déroulement, la chronologie de cette reconstruction.
Voilà, il fait pas bien chaud là maintenant, je vais vous laisser. Je vous remercie de ces informations sur le quartier de Belleroche.
Merci à vous.
Calade 100.9.
Voilà, donc je poursuis mon chemin dans cette allée des platanes pour la Gratiferia Verde qui est organisée aujourd'hui dans le quartier de Belleroche. Un grand moment d'échange, chacun vient avec ce qu'il a, repart avec ce que les autres avaient en laissant ce qu'il a, sans mettre un billet de banque au milieu. C'est la fête de la gratuité. Alors je reçois de l'association Alternativa qui ont un stand où ils présentent leur activité, Serge et Anne-Sophie.
Vincent et Anne-Sophie. Et on est dans l'allée des marronniers, on n'est pas dans l'allée des platanes.
Voilà, c'est le froid qui commence à faire effet. Alors Alternativa.
Alternativa, eh ben écoutez, c'est une association qui lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, l'objet principal de l'association, c'est ça, c'est de promouvoir toutes les alternatives qui vont aller contre le réchauffement climatique, que ce soit des alternatives énergétiques, alimentaires, en termes de mobilité, en termes d'énergie, etc.
Donc ce sont des actions, mais aussi de la pédagogie ?
Oui, c'est vraiment de faire comprendre, faire passer le message de l'urgence climatique, parce qu'aujourd'hui, si rien ne se passe, ça va vraiment être chaud pour, pas pour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, mais pour nos gamins. Et puis voilà, dans les 20 ans qui viennent, on peut arriver vraiment à des situations où on n'aura plus la main pour faire changer les dérèglements climatiques qui nous tombent déjà sur le dos, avec des conséquences super graves et souvent les plus graves pour les personnes les plus démunies, quoi.
Bien entendu, c'est toujours les plus pauvres qui sont les premiers frappés face au confort que certains s'octroient peut-être de manière outrancière.
Oui, exactement. Face à cette urgence climatique, les chances ne sont pas toutes du même côté. Déjà, les responsabilités ne sont pas toutes du même côté. Ce sont quand même souvent les gens les plus aisés, les populations déjà les plus aisées, et au sein de ces populations les plus aisées, les populations les plus aisées, qui sont les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique. Et puis moi, il y a un truc que je voudrais vraiment ajouter, c'est que on est en train de banaliser le terme urgence climatique, mais n'oublions pas que quand on dit urgence climatique, il y a quand même le terme urgence, et urgence, ça a une signification. Ça veut dire que les scientifiques sont formels. Si dans les 12 ans qui viennent, on ne fait pas des choses drastiques, eh bien voilà, on n'aura plus les choses en main. C'est un emballement qui va se produire, des catastrophes, des réfugiés climatiques, des guerres, parce que les ressources deviendront rares. Donc on a encore des choses à faire dans les 12 ans qui viennent, mais il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience, à commencer par ceux qui prennent des décisions au niveau politique.
Alors on entend dire avec par exemple les mouvements de jeunes tous les vendredis, on entend dire avec les marches contre le réchauffement climatique, les marches pour le climat et pour la terre, que ma foi la prise de conscience elle se développe dans la population. Qu'en est-il à votre avis ?
Oui, c'est vrai, il y a une prise de conscience de je dois agir, je peux faire quelque chose. Après, nous ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui la responsabilité elle n'est pas que individuelle. Comme disait Vincent, il faut aussi que la politique enchaîne là-dessus et que des choix structurants soient faits et des aides, par exemple, pour rénover sa baraque et pas avoir des factures d'électricité, donc énormes, avoir des mesures politiques au niveau des villes pour faciliter les mobilités douces et pas encourager que la voiture, ce qui n'est pas forcément ici le cas. Ça peut être des activités aussi sur des sensibilisations de masse de la population prises par les pouvoirs publics. Enfin, il y a plein de choses que les pouvoirs publics doivent faire et mettre la responsabilité sur l'individu en disant « Allez, mon coco, fais ton tri correctement », c'est un peu juste comme limite. On sait très bien que c'est pas en ne plus achetant du plastique, mais en interdisant la vente du plastique, qu'on fera changer les choses beaucoup plus massivement. Donc l'idée, elle est vraiment là-dessus. Nous, on porte vraiment ce plaidoyer-là ici, au niveau local, au niveau de l'agglo de Villefranche, avec une volonté que les élus de ville de l'agglo se bougent un peu plus et nous fassent un plan climat, parce qu'ils sont en train de rédiger un plan climat qui soit vraiment digne de ce nom et digne de l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. C'est à eux d'engager les choses structurelles pour que les citoyens puissent mettre en œuvre des activités individuelles qui ont un impact.
Alors, quand on a cette conscience, quand on est militant, quand on est engagé, on est parfois amené à faire des petits coups d'éclat. Ces coups d'éclat, ce ne sont pas des coups d'éclat où on fait tout sauter, mais ce sont des éclats qui sont symboliques, où on montre un certain nombre de choses. Et entre autres, je sais que votre association est à l'initiative d'avoir fait prendre l'air à notre président de la République et que ça vous a apporté quelques petits soucis. On peut en parler ?
Oui, bien sûr, on peut parler de tout, parce que nous, on fait toutes ces actions complètement à visage découvert et en les revendiquant, on les assume, parce qu'on est un peu comme des lanceurs d'alerte face à cette urgence climatique. On est là pour tirer la sonnette d'alarme. Alors certains ont envie d'éteindre la sonnette d'alarme plutôt que de s'occuper du feu. Nous, on préférerait qu'ils s'occupent vraiment du feu. Voilà. Aujourd'hui, la maison brûle et on est en train de poursuivre les gens qui ont tiré la sonnette d'alarme ou ont appelé les pompiers. Peut-être qu'il y a d'autres solutions et d'autres décisions à prendre plus urgentes.
Et du coup, on est effectivement du Beaujolais, une 6 militants à être aujourd'hui convoqués devant le tribunal correctionnel pour le 28 mai prochain à Bourg-en-Bresse pour effectivement le décrochage du portail présidentiel en la mairie de Jassan en mars dernier. Et on veut vraiment faire de ce procès le procès de l'inaction pour le climat. C'est le premier des procès qui est annoncé, mais il y en aura 3 autres, un vers Strasbourg et 2 en mois de septembre à Paris et à Lyon. Donc on est une 20aine de militants en France à être poursuivis pour vol, alors que nous on milite vraiment pour le fait, comme disait Vincent, que ce soit un geste d'alerte et non pas un geste à poursuivre en lui-même. Donc voilà, on a vraiment envie que ces procès-là se transforment en des procès, disons-le, politiques, hein, pour l'inaction du gouvernement à ne rien faire face à cette urgence climatique.
Alors pour vous soutenir, je pense qu'il doit y avoir une pétition, un site internet, des choses comme ça, où on peut, ma foi, faire preuve du soutien et puis aussi de sa préoccupation.
Bien sûr, il y a un site internet sur ANV Action Non Violente COP21. Vous trouvez sur internet avec un appel à soutien. Et puis aussi, nous, localement, on va commencer à organiser un comité de soutien pour les 6 activistes pour le 28 mai. Il y a une marche pour le climat qu'on va très certainement préparer pour le 25 mai à Villefranche. Le 16 mars, on était 900 à Villefranche. C'était une très grosse mobilisation.
Oui,
on était vraiment trop contents parce que voilà, c'était la première qu'on organisait. Celle du 25 mai, ce sera encore plus grand. On pense organiser pas mal de choses autour de cette manifestation-là. Elle sera 3 jours avant notre procès. Donc, on va travailler dans les semaines qui nous restent là à faire de cette belle mobilisation sur Villefranche un soutien pour les activistes climatiques.
Moi, je voudrais juste ajouter un petit mot et rebondir sur ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure et l'actualité globale actuelle en France. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à des gens qui gagnent 1200, 1500 euros que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'ils rénovent leur maison. Ils n'ont déjà pas les moyens de finir leur mois. Donc, si l'État et des décisions politiques sérieuses ne sont pas prises pour aider la population à réparer les passoires énergétiques dans lesquelles on les fait vivre, la solution ne pourra pas venir de leur part.
Fin du mois, fin du monde, même combat.
Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.
Merci à vous.
Voilà, donc je suis toujours dans l'allée des Platanes à Belleroche. Je suis avec Alice qui représente l'association Nous voulons des coquelicots, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. Nous voulons des coquelicots, donc du Beaujolais Val-de-Saône, présente, pour faire signer la pétition. Nous voulons des coquelicots, qui est une pétition, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui, ma foi, a comme objectif la suppression des pesticides, pétition qui a été lancée suite à des contrôles qui ont été faits dans les cheveux des journalistes de Charlie Hebdo et qui se sont aperçus qu'ils étaient tous, mais sans doute un peu, tous complètement intoxiqués par les pesticides et une multitude de pesticides. Alors Alice, dans le vent qui emporte les feuilles de coquelicot, qui est une fleur fragile du reste, quel est le but de votre présence ici?
Alors ma présence, c'est de venir au devant des gens, des gens comme vous et moi, qui souhaitons que les choses avancent en matière d'écologie, de protection de la planète et en matière de protection de notre santé. Et du coup, on est venu à la Gratiféria d'Élodie Perrichon pour aller au devant des personnes et faire signer cet appel pour recueillir le plus possible de signatures pour pouvoir, espérons-le, dans 2 ans, quand on en aura encore davantage, là on est près de 600 000, ce qui est déjà bien, quand on en aura encore davantage, pouvoir espérer de faire changer les choses au niveau de l'exécutif. Voilà.
Alors l'exécutif qui avance à reculons, hein, puisque parlons du glyphosate par exemple, ça devait s'arrêter, ça devait pas s'arrêter, et puis maintenant on dit que c'est pas possible, on sait pas faire autrement, que n'importe comment, si c'est pas ça, il y aura plus d'agriculteurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que, comme toutes les personnes qui font vivre tous ces différents collectifs, qu'il y a d'autres solutions, qu'il est important maintenant de changer radicalement de système, que les solutions existent, qu'il faut maintenant mettre les moyens et les bonnes personnes pour qu'elles changent.
Voilà, les moyens et les bonnes personnes. Alors si des gens veulent participer à cette pétition, il y a un site?
Oui, n'hésitez pas à aller visiter le site nousvoulonsdescoquelicots.org. C'est un site qui est très bien fait, qui est très explicite, qui vous expliquera bien tout. Vous trouverez l'appel, il suffit de mettre votre nom et de cliquer et vous ferez monter le compteur des signatures et on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise. Voilà.
Merci et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Voilà, donc ainsi se termine cette émission « Et si on en parlait ?» spéciale en extérieur, lors de cet événement qui se tenait ce samedi à Belleroche. Bonne soirée.